Chapitre 33. Assise sur sa petite chaise derrière la princesse, Rachel se cognait un genou contre l'autre en réfléchissant à un moyen de se faire ficher dehors pour la nuit. Ainsi, elle irait récupérer la boîte puis s'en irait pour ne jamais revenir. Elle pensait sans cesse à la miche de pain avec son trésor caché dedans qui l'attendait dans les jardins. Morte de peur, elle se sentait aussi excitée à l'idée des centaines de malheureux qui, grâce à elle, ne seraient pas décapités. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'être une personne importante. Impatiente de partir, elle triturait l'ourlet de sa robe. Les seigneurs et les dames en étaient à boire leur vin spécial, et ils semblaient ravis. Giller avait pris place avec les autres conseillers dans le dos de la reine. Il parlait à voix basse avec le peintre de la cour. Rachel n'aimait pas cet homme car il lui faisait peur. Il lui souriait bizarrement. En plus, il n'avait qu'une main. Elle avait souvent entendu les domestiques s'inquiéter qu'il lui vienne l'idée de faire un portrait d'eux. Elle se demandait bien pourquoi. Soudain, tous les convives eurent l'air effrayés. Regards braqués sur la reine, ils se levèrent. Rachel s'aperçut vite qu'il ne fixait pas Milena, mais quelque chose d'autre derrière elle. L'enfant écarquilla les yeux quand elle vit les deux colosses. Les hommes les plus grands qu'elle ait jamais aperçus. Ils portaient des tuniques sans manches. Sur leurs bras brillaient des cercles de métal hérissés de pointes. Tous les deux blonds et musclés, ils semblaient plus méchants encore que les gardes du donjon. Ils observèrent l'assemblée impassible, puis allèrent se camper bras croisés des deux côtés de la grande arche derrière Milena. Offusquée, elle se tourna sur sa chaise pour voir ce qui se passait. Un seigneur aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus franchit l'arche. Vêtu d'une robe blanche, il portait à la ceinture un couteau à la garde en or. Dieu qu'il était beau, pensa Rachel, éblouie. Il sourit à la reine, qui se leva d'un bond.
« Quelle surprise inattendue !»
s'exclama-t-elle de la voix ridicule qu'elle employait pour parler à Mamour.
« Nous sommes très honorés, mais n'auriez-vous pas dû arriver demain ?»«
Majesté, » dit l'homme en souriant, « je ne pouvais plus attendre de revoir votre adorable visage. Veuillez me pardonner d'être en avance, splendeur des splendeurs. »
Gloussant d'aise, Milena lui tendit sa main pour qu'il y pose un baiser. Elle adorait que les gens fassent ça.
Rachel fut étonnée par la déclaration du beau seigneur. À sa connaissance, personne n'avait jamais jugé la reine jolie et encore moins adorable. Après le baise-main, elle prit le bras de son invité et le guida jusqu'à la table.
« Seigneur et gentes-dames, puis-je vous présenter le petit père Ral ?»«
Le petit père Ral ?»
Rachel regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un l'avait vue sursauter, mais personne ne s'occupait d'elle.
Le petit père Ral mobilisait l'attention générale.
Soudain, la fillette pensa qu'il allait la regarder et deviner qu'elle prévoyait de s'enfuir avec la boîte. Elle tourna la tête vers Giller qui ne parut pas s'en apercevoir. Il était livide. Ral était arrivé avant qu'elle s'enfuit avec la boîte. Que devait-elle faire? Ce que Giller lui avait dit, rien de plus ni de moins. Être courageuse et sauver tous ses innocents. Elle devait trouver une ruse pour se faire mettre à la porte.
Le petit père Ral observa à son tour l'assemblée. Quand le chien de la reine aboya, il le regarda fixement. Aussitôt, l'animal gémit. Ral s'intéressa de nouveau aux seigneurs et aux dames, tous très silencieux.
« Le dîner est fini, si vous voulez bien nous excuser. »
Les courtisans murmurèrent entre eux indignés, puis ils se turent comme paralysés par ses yeux bleus et se retirèrent, d'abord entraînant les pieds, puis de plus en plus rapidement. Ral fixa certains conseillers qui parurent ravis de s'éclipser aussi. Ceux qu'il ne regarda pas, dont Giller, restèrent où ils étaient. La princesse ne partit pas non plus. Rachel se fit toute petite derrière elle, histoire qu'on ne la remarque pas.
« Si vous preniez un siège, petit père Ral !»
dit la reine.
« Le voyage a dû être très fatigant. Ce soir, il y avait un délicieux rôti au menu. Si ça vous tente... »
Ral la dévisagea de ses yeux bleus qui ne sillaient pas. « Je n'approuve pas qu'on assassine des animaux innocents pour manger leur chair.
Rachel crut que la reine allait suffoquer.
« Eh bien, nous avons aussi une excellente soupe de navets, d'autres délices. Je suis sûr que quelque chose vous conviendra, sinon les cuisiniers se feront un plaisir de... »«
Une autre fois, peut-être. Je ne suis pas venu manger, mais recevoir votre contribution à notre alliance. »«
Vous me prenez au dépourvu, Seigneur. Nous n'avons pas fini de rédiger le pacte. Il reste des documents à paraffer. » Et je suppose que vous voudrez les consulter avant.
Je signerai avec joie tous les actes déjà préparés. Et je vous donne ma parole d'honneur de valider tous les documents supplémentaires que vous me présenterez. Ral sourit. Il n'était pas dans vos intentions de m'abuser, je suppose.
Bien sûr que non, petit père Ral.
Alors où est le problème? Pourquoi ferais-je vérifier ces textes puisque votre honnêteté est sans faille? C'est bien ce que je dois comprendre.
Évidemment, Seigneur. Il est inutile de vérifier, mais c'est assez inhabituel et...
Notre alliance est hors du commun. Coupa Ral. Si nous passions aux choses sérieuses...
Oui, oui, si c'est votre volonté.
Milena se tourna vers un conseiller.
Allez chercher les documents déjà établis et ramenez aussi de l'encre et des plumes et mon seau.
L'homme s'inclina et sortit.
« Giller, il nous faut la boîte. »«
J'y cours, votre majesté. »
Quand elle vit le sorcier franchir l'arche, Rachel se sentit plus seule que jamais. La reine profita de l'attente pour présenter son héritière au petit père Ral. Il baisa la main de la princesse et assura qu'elle était aussi jolie que sa mère. Subjuguée, Violette sourit béatement et pressa contre son cœur la main où s'étaient posées les lèvres du seigneur. Le conseiller revint avec une petite armée de clercs chargés de tonnes de documents. Ils écartèrent les assiettes, disposèrent les feuilles un peu partout sur la table et indiquèrent les endroits où Ral et la reine devaient signer. Quand c'était fait, un clerc versait de la cire rouge sur la feuille et Milena y imprimait son sceau. Ral annonça qu'il n'en avait pas, mais que sa signature suffirait, car il ne doutait pas de reconnaître sa propre écriture même dans des années. Giller revint, se campa à côté de la table et attendit que la séance de paraphe soit terminée. Alors que les clercs se disputaient sur l'ordre de rangement des documents, la reine lui fit signe d'approcher.
« Petit père Ral, dit-il avec son plus beau sourire, puis-je vous remettre la boîte d'ordaine de la reine Milena ?»
Il tenait la fausse boîte avec révérence, exactement comme si c'était la vraie. Les pierres précieuses brillaient de tout leur feu. Ral sourit et s'empara délicatement de la boîte. Il la contempla un moment, étudia ses ornements, appela un de ses gardes du corps, le regarda dans les yeux et lui tendit l'artefact. D'une main, l'homme l'écrabouilla.
« Qu'est-ce que ça signifie ? »
s'écria la reine les yeux ronds.
« C'est à moi de poser cette question, » dit Ral en la foudroyant du regard. « Majesté, cette boîte était une contrefaçon. »«
Quoi ? Impossible, il n'y a pas de... Je suis certaine que... Giller, qu'avez-vous à dire sur cette affaire ?»
Le sorcier glissa les mains dans ses manches.
« Votre Majesté, je ne comprends pas. Personne ne s'est attaqué aux protections magiques. Je m'en suis assuré, comme vous le savez. Je jure que c'est la boîte sur laquelle vous m'avez chargé de veiller. À mon avis, il s'agissait d'un faux à l'origine. On nous a trompés, c'est la seule explication. »
Les yeux de Ral n'avaient pas quitté le sorcier tout au long de son discours. Puis ils se tournèrent vers un de ses hommes. Le colosse approcha, saisit Giller par le dos de sa robe et le souleva de terre.
« Comment oses-tu ? Bats les pattes, espèce de gros bœuf ! Montre du respect à un sorcier, sinon tu le regretteras !»
Les pieds de Giller battaient dans le vide tandis qu'il s'égosillait. La gorge serrée et des larmes aux yeux, Rachel lutta pour ne pas éclater en sanglots. Si elle cédait à la panique, il la remarquerait et...
Ral s'humidifia lentement le bout des doigts. « Ce n'est pas la seule explication possible, » dit-il. « La vraie boîte a un pouvoir très particulier. Celui de la contrefaçon n'avait aucun rapport. Une reine ne s'en apercevrait pas, mais ça ne pourrait pas échapper à un sorcier. »
Il sourit à Milena.
« Ce bon Giller et moi allons nous éclipser pour avoir une petite conversation. »
Il se détourna et sortit, suivi par le garde du corps qui tenait Giller. L'autre vint se camper devant l'arche, les bras croisés.
Rachel aurait voulu accompagner le sorcier. Elle avait si peur pour lui. Juste avant de sortir, les pieds ne touchant pas le sol, il se retourna et ses grands yeux noirs se plantèrent dans ceux de la fillette. Alors, dans sa tête, elle entendit une voix aussi claire que si elle avait résonné à ses oreilles, lui crier « Enfuis-toi !»
Le sorcier disparut, Rachel aurait voulu verser toutes les larmes de son corps. Pour se calmer, elle porta à sa bouche l'ourlet de sa robe. Autour de la reine, tout le monde parlait en même temps. James, le peintre de la cour, entreprit de ramasser les débris de la boîte. Les tenant entre sa main valide et le moignon de l'autre, il les contemplait avec son éternel air bizarre. Rachel entendait toujours dans sa tête les échos de l'ordre du sorcier. Regardant autour d'elle, elle constata que personne ne se souciait de sa présence. Elle fit le tour des tables, la tête baissée, histoire de rester invisible. Arrivée à l'autre bout de la pièce, elle jeta un coup d'œil pour voir si on l'observait. Mais la reine et ses conseillers avaient d'autres soucis. Elle leva une main et s'empara d'un peu de nourriture. Un morceau de viande, trois tranches de pain et une énorme part d'un fromage très dur. Après avoir rangé ce butin dans ses poches, elle vérifia une dernière fois qu'on ne la regardait pas. Elle courut vers le couloir, s'interdisant de pleurer pour que Giller soit fier d'elle. Elle fonça sur le sol couvert de tapis sans jeter un coup d'œil aux magnifiques tentures. Avant d'arriver à la porte, elle ralentit pour ne pas éveiller l'attention des gardes.
Quand ils la virent, ils lui ouvrirent et la laissèrent sortir sans rien demander. Les hommes en faction de l'autre côté du battant ne lui firent pas plus de difficultés.
Rachel essuya quelques larmes sur ses joues et descendit le grand escalier de pierre. Même quand on était courageuse, ne pas pleurer du tout n'avait rien de facile. La patrouille l'ignora quand elle la croisa sur l'allée pavée du jardin. Dès qu'on s'éloignait des torches accrochées au mur, il faisait très noir, mais elle connaissait le chemin par cœur. Sous ses pieds nus, l'herbe était humide de rosée. Quand elle eut atteint la troisième vasque sur la droite, elle s'agenouilla, s'assura que personne ne la regardait, et passa une main entre les fleurs. Le ballot était là. Elle le sortit, l'ouvrit, rajouta son butin et le referma. Au moment où elle allait courir vers le mur d'enceinte, elle se souvint et poussa un cri étouffé.
Elle avait oublié Sarah dans le coffre à linge. La princesse finirait par la trouver et la jetterait au feu. Rachel ne pouvait pas abandonner son amie alors qu'elle ne reviendrait plus jamais. Sans elle, Sarah aurait peur, puis elle finirait dans les flammes.
Elle remit le ballot dans la vasque et revint sur ses pas. Devant le mur d'enceinte, un des gardes baissa les yeux sur elle.
« Je viens de te laisser sortir, »
grogna-t-il.
« Oui, mais je dois retourner au château un moment. »«
Tu as oublié quelque chose ?»«
Oui, c'est ça. »
Le soldat secoua la tête et ouvrit le fenestron.
« La porte !»
lança-t-il à son collègue de l'autre côté.
Une fois à l'intérieur, Rachel sonda le couloir.
La grande salle au sol noir et blanc et l'escalier d'apparat n'étaient pas loin. Il suffisait de traverser quelques autres corridors, plus une ou deux pièces, dont l'immense salle à manger. C'était le chemin le plus court. Mais si la reine, la princesse ou même Ral la voyaient, ce serait très dangereux. Violette risquait de l'emmener chez elle et de l'enfermer dans le coffre.
Elle franchit une petite porte sur sa droite. Le passage réservé aux domestiques. Un long détour, mais elle n'y croiserait pas de gens importants.
Le serviteur ne lui poserait pas de questions et ne l'arrêterait pas. Il n'aurait pas envie de s'attirer des ennuis avec la princesse à qui elle appartenait.
Mais elle devrait traverser tout leur quartier sous les grandes salles et la cuisine.
Les marches usées étaient en pierre. Une fenêtre en haut de la cage d'escalier n'était pas protégée et laissait entrer la pluie. Du coup, l'eau ruisselait sur les murs, puis sur les marches couvertes par endroits d'une moisissure verte. Pour ne pas glisser avec le peu de lumière que fournissaient les torches, il fallait être très prudente.
Dans les couloirs du sous-sol, Rachel croisa quelques serviteurs qui portaient du linge ou des fagots de bois destinés aux cheminées.
Certains s'arrêtaient pour bavarder, l'air très énervé.
Elle entendit plusieurs fois le nom de Giller et en eut des frissons glacés.
Quand elle passa devant les quartiers d'habitation, toutes les lampes à huile brûlaient. Par petits groupes, les gens se racontaient ce qu'ils avaient vu. Rachel remarqua Maître Sander. L'homme qui portait un drôle d'uniforme et accueillait les invités au banquet avant d'annoncer leur nom. Entouré d'une nuée de femmes et de quelques hommes, il parlait haut avec de grands gestes de la main.
« Je l'ai entendu de mes propres oreilles par les types qui gardaient la salle à manger. Vous savez de qui je veux parler, Frank et l'autre, Jenkins, celui qui boite. les soldats de Dara leur ont dit en toute confidence que le château allait être fouillé de fond en comble.
« Pour chercher quoi ?»
demanda une femme.
« Je n'en sais rien, ils ne l'ont pas précisé. Mais je ne voudrais pas être le type qu'ils traquent. Ces soldats de Dara vous donneraient des cauchemars éveillés.
Oh, « J'espère que ce qu'ils cherchent sera sous le lit de Violette, »
dit quelqu'un d'autre.
« Pour une fois, j'aimerais que ce soit elle qui cauchemarde au lieu d'empoisonner le sommeil des autres. »
Tout le monde éclata de rire. Rachel continua et traversa un grand entrepôt flanqué de colonnades. D'un côté, elle vit des tonneaux empilés les uns sur les autres. Des caisses, des boîtes et des sacs leur faisaient face. L'air sentait le moisi et on entendait sans arrêt les petits bruits de souris occupées à grignoter. Rachel marcha bien au milieu, le long des colonnes, et atteignit une lourde porte à l'autre bout. Quand elle la poussa, elle s'ouvrit en grinçant, et un peu de la rouille de la poignée se déposa sur ses mains qu'elle essuya contre le mur. Une autre porte bardée de fer sur la droite conduisait au donjon. Rachel s'engagea dans l'escalier. Il y faisait noir, car une seule torche brûlait au sommet et de l'eau gouttait sur les marches. Arrivée en haut, Rachel poussa une autre porte et descendit des corridors perpétuellement venteux. Trop apeurée pour pleurer, elle pensa à Sarah qu'elle voulait emmener loin d'ici. Revenue à l'étage supérieur, elle jeta un coup d'œil par la porte palière, puis sonda le couloir qui conduisait aux appartements de Violette. Il était désert. Marchant sur la pointe des pieds, Rachel avança jusqu'à la porte de sa maîtresse, l'entr'ouvrit et regarda à l'intérieur. Pas de lumière, elle entra et referma derrière elle. Un feu brûlait dans la cheminée, mais toutes les lampes étaient éteintes. La fillette approcha du coffre, s'agenouilla devant et écarta la pile de couverture. Un petit cri lui échappa. Sarah avait disparu. Elle eut l'impression que son sang se glaçait dans ses veines.
« Tu cherches quelque chose ?»
lança la voix de Violette. Rachel se pétrifia. Son souffle s'accéléra, mais elle parvint à ravaler ses sanglots. Pas question que la princesse la voie pleurer. Elle recula, se retourna et aperçut une silhouette près de la cheminée. Les mains dans le dos, la princesse fit un pas vers sa victime favorite.
« Non, je venais me coucher dans mon coffre. » « Vraiment ?»
Les yeux de Rachel habitués à la pénombre, elle vit que Violette souriait méchamment.
« Tu ne cherchais pas plutôt ça ?»
La princesse sortit lentement les mains de derrière son dos et brandit la pauvre Sarah. Rachel écarquilla les yeux, mal à l'aise, comme si elle avait soudain envie de faire ses besoins.
« Princesse Violette, par pitié !»
gémit-elle en tendant les mains.
« Approche !» Et nous allons parler de tout ça. »
Rachel obéit, puis s'immobilisa devant Violette et saisit l'ourlet de sa robe. Sans crier gare, sa maîtresse la frappa, plus fort que jamais. Si fort que Rachel lâcha un petit cri et recula d'un pas sous l'impact. Des larmes perlaient à ses paupières, elle porta la main gauche à la marque cuisante sur sa joue. La droite s'enfonça dans sa poche. Cette fois, elle ne se laisserait pas faire. La princesse la gifla sur l'autre joue, du dos de la main. Le coup fit plus mal encore que le précédent. Rachel serra les dents et referma le poing sur l'objet qu'elle cachait dans sa poche. Violette revint se camper devant la cheminée.
« Ne t'avais-je pas dit ce qui arriverait si tu osais avoir une poupée ?»«
Princesse, par pitié, non !»
gémit Rachel, tremblant de douleur et de peur.
« Permettez-moi de la garder. Elle ne vous fait pas de tort. »«
Non !»
ricana Violette.
« Je vais la jeter dans le feu, comme promis, pour que tu apprennes ta leçon. Comment s'appelle-t-elle »«
Elle n'a pas de nom. Aucune importance, elle brûlera pareil. »
Violette se tourna vers les flammes. Rachel sortit le bâton magique que lui avait donné Giller.
« Si tu jettes ma poupée au feu, tu le regretteras »
cria-t-elle. La princesse fit volte-face.
« Qu'as-tu ? Et comment oses-tu me tutoyer ? Tu n'es rien, je suis une princesse. »
Rachel posa la pointe du bâton sur le napperon qui recouvrait un guéridon à côté d'elle.
« Brûle pour moi !»
murmura-t-elle. Le napperon se consuma aussitôt. Sous le regard surpris de Violette, la fillette braqua son bâton sur un livre posé sur une table. Elle jeta un coup d'œil à la princesse pour s'assurer qu'elle ne manquait rien du spectacle et répéta son incantation. Le livre s'embrasa. Alors que sa maîtresse poussait un petit cri, Rachel le prit par un coin et le jeta dans la cheminée. Puis elle avança d'un pas et plaqua la pointe du bâton sur la poitrine de la princesse.
« Donne-moi ma poupée ou je te fais brûler !»« Tu n'oserais pas. Obéis, sinon tu te calcineras vivante !»« Tiens, Rachel, voilà ta poupée. Ne me fais pas brûler. J'ai peur du feu !»
Sans cesser de menacer Violette avec le bâton, Rachel prit Sarah de la main gauche et la serra contre elle. La princesse tremblait de tous ses membres. Rachel eut presque de la peine pour elle, puis elle pensa à la douleur sur ses joues. Jamais elle n'avait eu aussi mal.
« Oublions tout ça !»
dit Violette soudain très gentille.
« Tu garderas la poupée et on n'en reparlera plus !»
Rachel ne se laissa pas prendre au piège. Dès qu'elle pourrait appeler un garde, sa maîtresse ordonnerait qu'on lui fasse couper la tête. Elle rirait bien et jetterait Sarah au feu.
« Dans le coffre, tu verras comme c'est agréable !»«
Quoi ?»
Rachel appuya un peu plus fort sur le bâton magique.
« Obéis ou tu flamberas !»
La princesse avança vers le coffre, le bâton à présent pointé dans son dos.
« Rachel, réfléchis un peu, si tu... »«
Tais-toi et va là-dedans, sinon gare à toi !»
Violette s'agenouilla et entra dans le coffre.
« Bien au fond !»
Quand la princesse eut obéi, Rachel referma le coffre, alla chercher la clé, verrouilla le meuble et la remit dans sa poche. Puis elle s'agenouilla pour regarder par le petit Judas. On voyait à peine les yeux de Violette briller dans le noir.
« Bonne nuit, princesse. Endors-toi vite. Cette nuit, je vais essayer ton lit.
Comme j'en ai assez de t'entendre, si tu cries, je viendrai te mettre le feu. Tu as compris ?»«
Oui, »
répondit une voix étouffée. Rachel souleva un tapis et le posa sur le coffre pour que la princesse ne puisse pas regarder dehors. Elle alla s'asseoir sur le lit et le fit grincer, histoire de faire croire qu'elle y passerait vraiment la nuit. Sarah dans les bras, elle en descendit et sortit sur la pointe des pieds. Après avoir refait sans encombre le même chemin qu'à l'aller, elle se présenta devant les gardes de la première porte. N'ayant aucune idée de ce qu'elle devait dire, elle se contenta de rester là, immobile et silencieuse.
« Alors, tu as oublié ta poupée ?»
demanda le soldat.
Elle hocha la tête. On la laissa passer sans l'ennuyer.
Dans les jardins, il y avait plus de gardes que d'habitude. Des hommes vêtus d'un uniforme différent accompagnaient les patrouilles. Ils la regardèrent avec beaucoup d'attention tandis que leurs compagnons leur expliquaient qui elle était. Elle avança lentement, se forçant à ne pas courir, Sarah serrait très fort contre elle. Le ballot était toujours dans les fleurs. Rachel le prit et le tint par le nœud, la poupée calée sous l'autre bras. En traversant le jardin, elle se demanda si Violette la croyait toujours dans le lit ou si elle avait éventé sa ruse et appelait au secours. Dans ce cas, on devait déjà l'avoir libérée et des gardes la cherchaient sans doute. Par le chemin le plus long, il lui avait fallu du temps pour revenir ici. Elle tendit l'oreille, cherchant à savoir si on criait son nom ou quelque chose comme ça. Elle osait à peine respirer, incertaine de pouvoir sortir avant qu'on se lance à sa poursuite. Elle se souvint de ce que disait Maître Sander. Le château allait être fouillé. Pour trouver la boîte, évidemment. Et elle avait promis à Giller de fuir avec, afin d'épargner des innocents. Des dizaines de soldats arpentaient le chemin de ronde. Devant le mur d'enceinte, Rachel ralentit. Jusque-là, elle avait toujours vu deux hommes devant la porte. Ce soir, un troisième les avait rejoints. Elle reconnut deux militaires, des gardes de la reine en tunique rouge. Le nouveau portait un uniforme de cuir noir, et il était beaucoup plus costaud. Devait-elle continuer d'avancer ou filer? Mais filer où? Pour ça, il fallait passer le portail. Avant qu'elle ait pu se décider, les soldats l'aperçurent. Elle continua donc. Un soldat en tunique rouge se tourna pour lui ouvrir, mais l'homme en noir leva un bras.
« C'est le jouet humain de la princesse, » expliqua le soldat. « Parfois, elle passe la nuit dehors. »«
Ce soir, personne ne sort. » dit l'homme en noir.
« Désolé, ma petite, » fit le premier garde, « mais tu l'as entendu, on ne passe pas. »
Rachel ne bougea pas, muette d'horreur. Elle regarda le soldat en noir qui baissa les yeux sur elle. Giller comptait sur Rachel pour sortir la boîte du château, et il n'y avait pas d'autre issue. Qu'aurait-il dit à sa place?
« Eh bien, d'accord, »
souffla-t-elle enfin.
« Il fait froid et je serai mieux à l'intérieur. »
« L'affaire est réglée. »
conclut le soldat en tunique rouge.
« Vous vous appelez comment ?»
lança soudain Rachel.
Je suis le lancier de la reine, Raid.
Sarah dans la main, la fillette désigna l'autre soldat en rouge.
Et vous?
Le lancier de la reine Walcott.
Les lanciers Raid et Walcott?
Répéta Rachel.
Bien, je crois que je me souviendrai.
Elle désigna l'homme en noir.
Et vous?
Qu'est-ce que ça peut te fiche?
Demanda le type en passant les pouces dans sa ceinture.
Eh bien,
dit Rachel,
la princesse m'a puni. Si je ne dors pas dans la forêt, elle sera furieuse et voudra me faire couper la tête. Alors je dois lui dire qui m'a empêché de passer. Si j'ai vos noms, elle me croira et viendra vous poser des questions. J'ai très peur d'elle. Maintenant, elle envoie des gens se faire décapiter.
Les trois hommes se regardèrent, inquiets.
C'est la vérité,
dit le lancier Raid à l'homme en noir.
La princesse est la digne fille de sa mère. Histoire de l'entraîner, elle la laisse se faire les dents sur la hache du bourreau.
Personne ne sort ce soir sans ordre de la reine,
répéta le type.
Mon compagnon et moi,
dit Raid,
sommes plutôt pour exécuter ceux de la princesse. Si tu veux t'y opposer, pas de problème, à condition de savoir qui mettra sa tête sur le billot. Si on en arrive là, nous dirons que nous voulions laisser sortir la gamine. Pas question de risquer nos têtes.
Walcott approuva du chef.
Surtout quand la menace est une fillette pas plus haute que trois pommes. Tu me vois raconter que trois grands gaillards comme nous l'ont trouvée dangereuse. À toi de décider, mais à tes risques et périls. Si la princesse s'en mêle, nous te laisserons te débrouiller avec le bourreau de la reine.
Le soldat en noir, l'air furieux, regarda de nouveau Rachel. Puis il étudia ses compagnons et reposa les yeux sur elle.
Bon, il semble évident qu'elle n'est pas une menace. Les ordres visaient d'éventuels espions, donc.
Walcott commença à ouvrir la porte.
Mais je veux voir ce qu'elle emporte avec elle,
ajouta l'homme.
Ma poupée et mon dîner,
fit Rachel comme si ça n'avait aucune importance.
Jetons quand même un coup d'œil.
Rachel posa le ballot sur le sol et l'ouvrit. Puis elle tendit Sarah au soldat. Il la prit dans sa grosse main, l'examina attentivement, la retourna et lui releva sa robe. Aussi fort qu'elle put, Rachel lui tire un coup de pied dans la jambe.
« Ne faites pas ça !»
cria-t-elle.
« Vous ne respectez rien !»
Les deux autres soldats éclatèrent de rire.
« Tu as trouvé un truc dangereux là-dessous ?»
demanda Raid. L'homme en noir foudroya ses compagnons du regard et rendit le jouet à Rachel.
« Et ça, c'est quoi ?»
« Mon dîner, je vous l'ai déjà dit. »
L'homme s'agenouilla.
« Une grosse si petite n'a pas besoin d'une miche de pain aussi grosse. »«
C'est à moi !»
hurla Rachel.
« N'y touchez pas !»«
Laisse tomber !»
dit Walcott au soldat en noir.
« Elle est toute maigre. Tu as l'impression que la princesse l'engraisse ?»«
Pas vraiment, non. »
concéda l'homme en se relevant.
« Allez, file, sale petite peste !»
Rachel referma le ballot à toute vitesse. Sarah dans une main, son trésor dans l'autre, elle se faufila entre les jambes des soldats pour gagner la porte. Dès qu'elle fut sortie, quand les hommes eurent refermé, elle partit à la course sans se retourner, trop effrayée pour tenter de savoir si on la poursuivait. Au bout d'un moment, elle s'arrêta quand même pour regarder. Personne. Hors d'haleine, elle s'assit sur une grosse racine. Elle voyait toujours les contours du château sous le ciel piqueté d'étoiles. Jamais n'y retournerait. Giller et elle iraient dans un pays où les gens étaient gentils et ils ne reviendraient jamais.
« Rachel !»
appela une petite voix. « Sarah !» La fillette posa la poupée sur ses genoux au-dessus du ballot.
« Nous sommes en sécurité maintenant, hors du château. »« Je suis contente, Rachel. »« Et nous ne reviendrons jamais. »« Rachel !» J'ai quelque chose à te dire de la part de Giller.
L'enfant dut se pencher car elle entendait à peine le murmure de sa poupée.
Quoi? Il ne pourra pas venir avec toi. Tu dois continuer seul. Mais je veux qu'il m'accompagne. Il l'aurait voulu aussi, mon enfant, plus que tout au monde. Mais il doit rester en arrière et empêcher vos ennemis de te poursuivre. C'est le seul moyen. Je vais avoir peur toute seule. Non, parce que je serai avec toi. Pour toujours. Mais que dois-je faire ou aller? Il faut fuir. Giller ne veut pas que tu te caches dans ton pain compagnon, parce qu'ils te trouveront. »
Rachel écarquilla les yeux.
« Choisis-en un autre, puis un autre encore, et fuis jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Après, tu trouveras des personnes gentilles qui s'occuperont de toi. » « Si Giller l'a dit, alors je le ferai. » « Il veut aussi que tu saches qu'il t'aime beaucoup. Je l'aime aussi, plus que tout. »
La poupée sourit. Soudain, des lumières bleues et jaunes explosèrent dans la forêt. Rachel leva les yeux, puis un roulement de tonnerre la fit se redresser d'un bond. Bouche bée, les yeux ronds, elle regarda une énorme boule de feu jaillir de derrière les murs du château. Elle s'éleva dans le ciel. Des étincelles s'en échappaient et une fumée noire en montait. Mais les flammes s'éteignirent peu à peu et l'obscurité revint.
« Tu as vu ça ?»
demanda Rachel. Sarah ne répondit pas.
« J'espère que Giller va bien. »
La fillette regarda sa poupée qui ne dit pas un mot et ne sourit même pas.
« On ferait mieux d'y aller, »
fit Rachel en se levant. Elle serra le jouet contre elle et prit le ballot.
« Il faut obéir à Giller. »
En passant devant le lac, elle jeta la clé du coffre à linge dans l'eau, aussi loin qu'elle le put, et sourit en entendant un gros splatch. Sarah ne dit rien quand elles s'engagèrent sur la piste. Se souvenant que Giller lui avait interdit d'aller dans sa cachette, Rachel prit un petit sentier de chasseur à travers les ronces et partit dans une nouvelle direction. Vers l'ouest.